Bienvenue dans Ubercaille, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous et ça commence dès maintenant. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Billat. Bonjour Olivier.
Bonjour Caroline.
Alors Olivier, toi, tu habites dans le sud de la France, dans le Gers pour être plus précise. Tu as d'abord été manager dans le transport BTP avant de te lancer depuis août 2022 en tant que fondateur de la société Ubeton. Ubeton, donc You Bet On en anglais, j'ai pas oublié. Tu as pour mission de réduire l'impact environnemental de la production de béton. Comment? Eh ben, tout simplement en utilisant les reliquats de béton lors des livraisons, au lieu de les jeter comme bien souvent c'est fait. Et donc, tu mets en relation les centrales de béton de prêt à l'emploi et les artisans par l'intermédiaire d'une application. C'est simple, économique et efficace. Le sujet aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de ce matériau que l'on voit partout autour de nous, le béton. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Olivier, ou est-ce que tu souhaites rajouter rapidement quelque chose à cette présentation ?
Jusqu'ici, c'est globalement bon. Une petite correction. Les reliquats de béton sont pas exactement jetés. Ils sont recyclés actuellement. Le recyclage, ça reste de l'économie circulaire, même si c'est un petit peu le bas du panier de l'économie circulaire, puisque initialement dans l'économie circulaire, on doit faire, on doit refuser tout d'abord d'utiliser un produit, ensuite repenser son usage, ensuite réduire sa consommation et réemployer, réutiliser. Et en tout dernier, c'est le recyclage. Et effectivement, voilà, le recyclage arrive en dernier. Donc, on ne le jette pas lorsqu'il y a des reliquats. C'est recyclé. Et le recyclage, en quoi ça consiste? C'est actuellement majoritairement dans les centrales à béton. Les retours sont mis dans une benne. Une fois que c'est sec et que c'est plein, ça va dans une gravière, où là, ils vont les concasser. Ils vont concasser ce béton pour en faire du granulat qui va servir de sous-couche routière ou, selon la granulométrie, donc la granulométrie, c'est la taille du concassage, donc ils vont pouvoir cribler et sélectionner les différentes granulométries. Et donc, selon ces tailles-là, réutiliser ces granulats pour faire du béton à nouveau, à la place de la grave, en fait.
Ok, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Pour moi, effectivement, ça devenait du déchet et jeté malheureusement.
Heureusement, c'est pas vraiment du déchet. C'est pour l'instant, je crois qu'on est sur 90% environ qui est recyclé. Donc nous, ce qu'on développe, c'est le réemploi de ce béton-là quand il est encore frais, quand il est encore dans le camion, et lorsque c'est possible de l'amener sur d'autres chantiers, voilà, pour le valoriser. Pour l'utiliser frais plutôt que de le concasser, et parce qu'en fait dans le béton il y a un produit qui représente à peu près 97% du CO2, c'est le ciment, et quand il est concassé, on perd complètement l'intérêt de d'avoir produit du béton et d'avoir généré du CO2.
Ok, donc effectivement ça évite certaines manutentions supplémentaires, transport et puis démarches supplémentaires, quoi. Ok, super. Merci beaucoup pour cette précision. Ça permet, c'est bien, ça nous met directement dans le bain. Et d'ailleurs, en parlant de se mettre dans le bain, donc est-ce que tu peux me donner une vérité et deux mensonges sur cette thématique qu'est le béton? Et moi, je dois trouver laquelle est la bonne.
Une qui va être particulièrement insolite par rapport à, je pense, ce que je suis en train de faire, c'est que, en fait, comme tu l'as expliqué, j'étais manager d'une agence de transport dans le BTP. Donc j'avais des chauffeurs qui avaient j'avais des camions toupies à gérer, et en fait je n'ai jamais fait de béton à la bétonnière, en fait. Donc c'est aussi je connais la partie béton livré depuis une centrale, en centrale et livré avec une toupie, mais je n'ai jamais moi-même fait de béton à la bétonnière, aussi insolite que ça puisse paraître. C'est 44 ans et pas de c'est un marché qui me concerne, et pourtant je l'ai jamais fait. Mais je sais par d'autres personnes que c'est assez physique, c'est long. Enfin voilà, c'est des informations que j'ai. Donc quelque chose qui est en contradiction quasiment avec ce que je viens de dire, mais qui pourtant c'est comme ça. Avec mon père de mes 14 ans à mes 16 ans, on a fait une maison quasiment de A à Z, sauf que toute la partie maçonnerie, on s'en est pas occupé. donc maçonnerie, charpente et plâtrerie, on s'est pas occupé de ça. Tout le reste, donc du terrassement, mon père avait acheté exprès un tractopelle pour faire le terrassement, donc on a fait nous-mêmes le terrassement jusqu'à la finition, les peintures. Donc ça, je me suis occupé de ça de mes 14 à mes 16 ans avec mon père. Troisième, c'est que en fait, là dans le cadre de Ubéton, moi j'ai un bac plus 2 à la base en logistique et transport, et que il m'arrive d'intervenir en école d'ingénieur pour présenter ce que je fais, l'entrepreneuriat impact, pour présenter Ubéton à des élèves ingénieurs, et je trouve ça assez cocasse et intéressant à la fois.
Ok, donc si je me permets, je résume rapidement les trois pour être sûr d'avoir tout bien compris. Donc, t'as jamais fait de béton avec une bétonnière, ça ce serait la première. Tu as fait une maison quasiment de A à Z de 14 à 16 ans avec ton père. Et la troisième, du coup, dans le cadre avec Ubéton, tu vas dans des écoles d'ingénieurs pour apporter ton expérience avec les élèves, etc. C'est ça? C'est bien ça?
C'est ça.
Ok. C'est pas évident, puisque je connais pas. là, je pense que je vais y aller clairement au pifomètre. Écoute, j'ai envie de croire que la vérité, c'est que tu t'es construit quasiment une maison de A à Z, tes 14 à 16 ans avec ton père. J'aime bien cette histoire.
Et effectivement.
C'est vrai?
Effectivement, c'est vrai. Voilà. Et ce qui est assez original, c'est que on avait une maison et derrière un terrain assez grand, et on a construit cette deuxième sur l'arrière de la première maison, en fait. Okay. Et j'ai déménagé avec une brouette, en fait. C'était tellement proche que voilà, on a déménagé, c'était juste à côté. Donc c'était aussi facile pour le soir après l'école ou le week-end aller lui donner un coup de main.
Carrément. C'est assez insolite, ça aussi, de déménager avec une brouette. J'aimerais en dire autant. Mais ça fait beaucoup à marcher pour les déménagements.
c'est arrivé qu'une seule fois. Les autres fois où j'ai dû déménager, c'était pas du tout avec une brouette. Il a fallu un peu mieux s'équiper quand même.
J'imagine, sinon ça devient assez compliqué. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'était assez sympa de l'avoir sous ce format-là, donc merci Olivier. Et je te propose de rentrer dans le sujet, tout simplement déjà par une première définition du béton. Qu'est-ce que le béton, en quelques mots, en une petite définition?
Qu'est-ce que le béton en quelques mots? Le béton, c'est un produit qui est utilisé dans à peu près 90% des bâtiments, des constructions urbaines. Donc c'est un produit qui est partout. Et à la fois, c'est le deuxième produit le plus consommé dans le monde.
Après lequel, du coup?
Après l'eau.
Ok.
Il y en a vraiment partout. Ils sont produits en France, par exemple, à peu près. Du béton prêt à emploi, je veux dire le béton qui est fait dans une centrale à béton, qui est livré avec un camion toupie, où les gens vont se chercher en centrale, ça c'est à peu près 40 millions de mètres cubes qui sont faits en France tous les ans. C'est énorme.
C'est absolument énorme, oui. J'arrive pas à me représenter le chiffre, en fait, tellement c'est...
et là, 40 millions, je saurais pas comment t'aider à la représenter plus facilement. Là, tout de suite, il faudrait que je compte pour pouvoir faire des calculs. J'ai pas pensé à proposer une solution pour le visualiser différemment.
Mais ça semble énorme, effectivement.
Oui, c'est énorme juste pour la France, mais à la fois, alors c'est pas sur le béton, mais c'est sur la construction en général. Là, il y a des chiffres actuels, des perspectives qui indiquent que dans la construction, sur les, je crois que c'est 30 prochaines années, on va construire tous les mois l'équivalent d'une ville comme New York. Ça, okay. Ça veut dire qu'on va consommer beaucoup de béton encore pendant de longues années. Pourquoi? Parce que on a besoin aussi de loger les gens. Donc, quand je dis tous les mois une ville comme New York, c'est réparti sur le monde entier. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se construisent. Et donc, qu'est-ce que le béton? Le béton, ma foi, c'est un produit assez simple qui est composé de quatre éléments, or, additifs et tout ça. Il peut y avoir des additifs pour soit mettre des fibres et le renforcer, soit allonger sa durée de vie ou enfin sa durée de mise en œuvre plutôt, pas sa durée de vie, soit raccourcir sa durée de mise en œuvre. Donc un accélérateur ou un retardant. Et donc c'est les composants principaux. On va retrouver le sable, la grave, de l'eau et du ciment. Donc le sable, on pense qu'on en trouve partout sur la planète, et pourtant c'est quand même une ressource qui est limitée. Celui qui est utilisé sur les constructions en France, c'est du sable de carrière, de gravière, qui se retrouve dans des cours d'eau. C'est du sable qui provient de là, ou de lacs. Et en fait, en France, on n'utilise pas du sable de mer. Mais ça s'utilise dans d'autres pays, parce qu'en fait le sable qui vient du désert, lui, ne peut pas être utilisé pour faire du béton. En fait, le sable qui est dans le désert, il est relativement rond, oui. Ce qui fait que l'adhérence ne se fait pas dessus. Et si on fait un château de sable à la mer, on retourne, même sans avoir sable mouillé, on va le retourner, ça va rester à peu près de la forme du seau. Si on fait la même chose dans le désert, on va avoir une forme conique, ouais, qui fait que tout va s'écouler. Et donc, c'est vraiment une image magique, ça. Il n'y a pas l'adhérence qui va se faire. Donc, le béton, le ciment, du moins, ne va pas pouvoir correctement adhérer dessus. Ça va pas avoir ça va pas pouvoir être utilisé pour son usage, en fait, pour vraiment sceller, en quelque sorte, que toutes les...
Il n'y a pas d'atome crochu, finalement, entre...
Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'atome crochu, tout à fait, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser du sable, soit qui provient des océans ou de la mer, ou qui est cherché en gravière, et qui n'est pas présent sur Terre en quantité phénoménale. On a des limites, en fait, d'où le problème de pénurie des ressources. Un exemple par rapport au sable, le palmier qui a été fait à Dubaï. Mmh. Alors Dubaï, on sont un petit peu connus pour le désert, le sable. Tout le sable qui a permis de faire ce palmier provient d'Australie. Ils ont fait venir des bateaux de sable, pour faire ce palmier. Tout le sable de construction qui est utilisé pour Dubaï, c'est pareil, c'est de l'importation. Ils n'ont pas eux-mêmes les ressources. Bon, quand il y a des gravières, ça va à peu près, mais en fait, pour prendre du sable en pleine mer, on va draguer le fond. Draguer le fond, ça veut dire qu'on va aller chercher le sable, gratter tout le fond de la mer ou des océans, et forcément, perturber complètement l'écosystème.
Oui, parce que effectivement, quand on retire, je suppose que ça perturbe aussi les poissons, la faune.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc l'impact de la construction, il se retrouve à plein d'endroits. En France, on fait assez attention, on va pas chercher de sable en mer, mais il y a d'autres pays qui le font. Et voilà, malgré tout, les ressources limitées, il faut y penser. Donc, un autre composant, c'est l'eau. L'eau, on en a parlé un petit peu cet été. Je pense qu'il y a quelques départements qui étaient en pénurie, qui avaient des problématiques sur l'eau. On sait qu'il faut limiter notre consommation. Et on en consomme tous les jours pour produire du béton. Ma foi, c'est nécessaire, mais d'un autre côté, du béton, si on l'a mis en place, c'est parce qu'il y a des reliquats, du gaspillage, à mon sens. Et donc, forcément, s'il y a du gaspillage de béton, il y a du gaspillage d'eau. Et le gaspillage de béton, ça représente en France à peu près l'équivalent de 2 millions de mètres cubes. Et 2 millions de mètres cubes, je pense que à peu près tous les Français ont déjà vu la tour Montparnasse à Paris, et ils peuvent s'imaginer que c'est un bloc de béton, et 2 millions de mètres cubes, c'est 6 tours Montparnasse.
Ça permet de se représenter, effectivement.
Ça fait beaucoup de béton, et ça veut dire que ça fait surtout beaucoup de terrasses qu'il aurait été possible de faire avec, ça fait beaucoup de fondations qu'il aurait été possible de faire avec. Voilà, c'est un ensemble de... On peut faire autre chose de ce béton-là plutôt que de le recycler. Mmh. On peut vraiment l'utiliser pour ce pourquoi il est fait. J'ai d'autres chiffres qui permettent de montrer un peu à quoi ça correspond. C'est toutes les... tout le monde a déjà vu. Enfin, c'est vrai que la tour Montparnasse, c'est un volume particulier. Il faut l'avoir vu. Je pense que si je parle d'une chambre normale, basique, de 9 mètres carrés, on se la représente facilement, ou un bureau, peu importe. On remplit ça de béton. C'est à peu près ce qui est gaspillé en France toutes les 1 minute 30.
Oui, donc ça permet de se dire que il y a peut-être moyen effectivement de soit faire plus attention au niveau des métrages quand on utilise
voilà,
le bâton.
C'est ça. Voilà. Exactement. Oui. Alors justement, tu viens à un sujet intéressant et important. C'est en quelque sorte d'où vient ce reliquat. Ce reliquat, il a deux sources principales. La première, c'est effectivement il y a un surplus de commandes, c'est-à-dire qu'on commande un peu trop. Mais c'est assez compliqué de mesurer le volume précis dont on a besoin. On pourrait penser que c'est simple, c'est-à-dire que si j'ai besoin de faire un cube, ben c'est facile d'avoir les volumes du cube. Mais si je dois faire des fondations, ben j'ai peut-être un certain endroit à creuser un peu plus qu'à d'autres, et il faut forcément mesurer en fonction du volume le plus important pour pas en manquer le jour où je vais devoir faire ma fondation. Donc mesurer de manière précise, pour l'instant, c'est encore complexe. Donc ça, c'est une source qui va générer du reliquat. Donc des surplus de commandes, et une autre source, c'est des problèmes de coordination entre soit les camions qui vont livrer les chantiers, soit les chantiers eux-mêmes, parce qu'il arrive que des camions soient commandés et soit le camion arrive et le chantier n'est pas tout à fait prêt, donc le camion peut pas livrer, et le béton a une durée de mise en œuvre relativement limitée. À partir du moment où il est produit en centrale à béton, il doit être mis en œuvre dans les 2 heures. Donc forcément, si le chantier n'est pas prêt en 1h30, puisqu'il faut après le temps de mettre en œuvre, ils n'ont peut-être pas le temps de tout finir. Ça peut vite faire du gâchis. Il y a aussi des personnes qui commandent, c'est de plus en plus rare, parce qu'il y a beaucoup d'outils maintenant qui se développent pour limiter ça, mais des camions qui sont commandés, et l'artisan ou le chef de chantier a quelquefois oublié qu'il avait commandé un camion pour ce jour-là, à cette heure-là. Donc ça revient au même que le chantier qui n'est pas prêt, sauf que là, c'est un problème d'inattention qui arrive aussi dans ces cas-là. Et après, c'est des chantiers plus gros où il va y avoir une suite de camions qui viennent livrer. Et si le cadencement ne se fait pas de manière correcte, il y a un camion qui va arriver et qui n'aura pas le temps par rapport aux autres de passer. Donc ça va générer un refus sur chantier. Un autre problème aussi, effectivement, c'est le problème de qualité. Le béton arrive, il est testé à l'arrivée, et la qualité ne correspond pas à ce qui était souhaité. Et là, le camion est refusé. Mais là, on arrive sur le même cas qu'on trouve dans les commerces, avec des fruits et légumes moches, on va dire, qui sont refusés parce qu'ils sont moches, mais ils sont encore consommables. Et donc, ce béton qui est refusé parce qu'il ne correspond peut-être pas exactement à ce qui était souhaité sur un chantier...
Il peut correspondre à un autre, tout à fait.
Il peut correspondre à un autre, être déclassé pour correspondre à un autre. Donc, voilà.
Ça me fait rebondir. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi pour nos auditeurs d'expliquer un petit peu peut-être les différences entre les bétons. Quand tu dis, par exemple, déclassé, je sais qu'il y a plusieurs classes de béton. De voir aussi... peut-être, là, on parlait aussi de béton prêt à l'emploi dans les toupies. Il existe peut-être d'autres types de béton et peut-être des utilisations qui sont en parallèle par rapport à ces typologies de béton. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais. Alors, il y a énormément de formulations de béton parce que je vais faire un parallèle qui va être très simple à comprendre puisque on est plutôt dans la vulgarisation ici.
Tout à fait.
Imaginez que vous avez besoin de faire des cookies. Et en fait, le béton, c'est des cookies.
Ça tombe bien, j'aime bien ça.
si tu aimes bien ça, tu connais la recette. Donc, qu'est-ce qu'il faut en ingrédients souvent? C'est de l'œuf. L'œuf, ça sert à quoi dans le cookie? Ça sert à lier les autres ingrédients. C'est le ciment, en fait. C'est le liant. On va retrouver quoi? On va retrouver de la farine, on va retrouver du sucre. C'est des produits qui sont assez fluides. Ça, c'est le sable. On va retrouver du beurre pour faire les cookies. Le beurre, c'est l'eau. Je fais vraiment des analogies
très particulières avec la cuisine. C'est très bien, voilà. J'imagine.
Et dans des cookies, qu'est-ce qu'il faut impérativement pour que ce soit des bons cookies? Il faut des morceaux, des éclats de chocolat. Et donc des morceaux qui sont un peu plus gros. Et ça, on peut dire que c'est l'agrafe, par exemple.
L'agrafe, quand tu dis l'agrafe, c'est du gravier, tout simplement.
C'est du gravier, voilà, tout à fait.
Okay.
Qui peut avoir différentes granulométries, donc différentes dimensions, selon l'usage du béton que l'on va avoir. Et donc, en mélangeant tous ces ingrédients, on a une recette. Donc, dans le béton, on appelle ça une formulation. pour faire des cookies. Et des recettes, bah, il suffit d'aller sur Marmiton. Il y en a énormément pour faire des cookies. Chacun a la sienne, chacun a sa spécialité. Après, on peut avoir des cookies qui soient plus ou moins cuits, qui soient, enfin, il y a énormément de paramètres qui vont faire qu'il y a différentes solutions de cookies. Et sur les, on peut aussi changer un petit peu les ingrédients, c'est-à-dire au lieu du sucre blanc normal, on peut prendre du sucre roux, de la cassonade, ou il y a d'autres typologies de sucre qui existent. Les farines, c'est pareil. L'œuf, ben, c'est voilà, pour chaque ingrédient, on va dire, on peut changer un petit peu les choses. Pour le béton, c'est pareil, chaque ingrédient peut être un petit peu différent. Le ciment, il y a différents types de ciment. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal le cookie. J'aime bien ça aussi, mais l'analogie est vraiment pas mal. C'est assez simple à visualiser de cette manière-là, je pense. Et donc, il existe des formulations pour des usages différents. C'est-à-dire que si on a besoin de faire un sol bien plat, on va pas forcément mettre de la grosse grave dedans. On va pas, c'est pas du tout pour le même usage. Si on a besoin de faire justement un sol plat, il faut que presque ce béton soit autolissant, qu'il puisse automatiquement se niveler. Donc il faut qu'il soit relativement fluide. Si par contre on a besoin de faire, quelque chose qu'on va mettre dans un coffrage. Un coffrage, c'est un moule. Voilà. On revient sur les cookies, on revient sur le domaine de la pâtisserie. J'aime bien la pâtisserie, donc voilà. Ça, si on fait un moule, par exemple. Si on utilise un moule, on va mettre plutôt quelque chose d'un peu plus, pas de très liquide. Faut que la pâte soit assez consistante. Et c'est pareil selon l'usage qu'on va en avoir. Si on fait une descente de garage, eh bien, si c'est fluide, ça va vraiment causer des problèmes. Il faut vraiment que le béton puisse ne soit pas
se
trop fluide
rapidement.
Pour se fuser rapidement, ou du moins pour pas couler.
Tout dépend en fait des contraintes aussi que l'on a. Si par exemple, comme tu dis, il y a des pentes, si on est dans un environnement plutôt clos, si on est dans... Souvent on parle de faire des dalles de béton, oui, des chapes de béton. Donc en fonction, ça peut varier quoi.
Il y a ça, il y a si c'est en intérieur ou en extérieur, parce que c'est pas exposé aux mêmes contraintes. Les contraintes, c'est par exemple la température. Ça peut descendre très bas. En intérieur, ça descendra pas de la même manière. Si c'est pour faire une dalle, est-ce que c'est une dalle donc intérieur extérieur, est-ce qu'il va y avoir des produits chimiques dessus? Est-ce que cette dalle a besoin d'être renforcée par un produit chimique? C'est le cas par exemple en agriculture, les dalles qui sont faites pour l'élevage agricole sont renforcés par un produit chimique, puisque les déjections, les choses comme ça, ont besoin aussi, parce que ça génère beaucoup d'acide, en fait. Oui. Et donc, c'est par rapport à ça qu'il faut des chapes qui soient renforcées au niveau des attaques chimiques. Donc ça, c'est pour le béton prêt à l'emploi qui est fait dans les centrales à béton, qui peut soit être livré en bétonnière, soit il y a quelquefois aussi des personnes qui vont carrément se le chercher dans la centrale à béton. C'est aussi une possibilité. Il faut faire attention parce que le béton pèse très lourd et donc on peut pas aller chercher ça avec une petite remorque de 500 kilos. On va pas revenir avec beaucoup de béton. Et après, il y a aussi du béton qui est fait dans des usines de préfabriqués qui vont servir soit à faire des poutres, soit à faire des blocs en béton pour, par exemple, des évacuations d'eau, à faire des caniveaux. Il y a beaucoup d'éléments qui sont préfabriqués en béton. On fait même d'ailleurs aussi des murs en béton préfabriqué. Ouais, c'est vrai que du béton, on en retrouve dans beaucoup d'éléments. Et après, il y a le béton aussi qui est fait directement sur chantier, à bétonnière. Et là, c'est la même manière. On met les ingrédients dedans et on a le produit à la fin. Et on retrouve la même problématique qu'avec le cookie. C'est-à-dire que le cookie qui est fait de manière industrielle, il y en a des bons et des moins bons. Ça, c'est, on va plus en apprécier certains que d'autres. Mais ils sont faits de manière uniforme. La formulation, elle est constante. On est certain de la qualité. Celui qui va être fait à la maison, le cookie, bah, soit on a un bon cuisinier, et soit on a un cuisinier qui est un peu moins bon et qui va mélanger les dosages, qui va peut-être pas faire cuire assez longtemps dans le four, donc pas assez remuer assez longtemps dans la bétonnière, ou pas, peut-être pas mettre assez d'eau ou mettre trop d'eau. Et voilà, là on arrive sur des problèmes de formulation qui sont faits dans les bétonnières, avec derrière des problèmes de qualité qui peuvent intervenir. Et Donc, c'est un des intérêts de recourir au béton réalisé par les centrales, ou alors justement de travailler avec des professionnels ou de bien savoir ce qu'on fait, parce que ben, on peut pas s'improviser à faire des cookies du premier jour et être sûr de les réussir. Faire des cookies et les louper, c'est pas forcément gênant parce qu'on peut les mettre à la poubelle, faire du béton et se louper. Même les cookies, on peut même les manger quand ils sont loupés, c'est l'avantage. Le béton, je déconseille.
C'est plus compliqué. Ouais, il peut y avoir un point d'alerte. C'est bien, tu me donnes plein d'idées de questionnements derrière par rapport à ça. Quels sont les interlocuteurs ou artisans qui pourraient réaliser ces travaux, qui pourraient, enfin, tu vois, par exemple, venir chez toi faire le béton, et à partir de quand, en fait, c'est intéressant de faire appel à un professionnel?
Oui. Alors, je dirais que dès lors que ça touche à la structure d'un bâtiment, donc dès lors qu'il y a des risques pour le bâtiment, je déconseille aux bricoleurs amateurs, alors parce qu'il y a différentes catégories de bricoleurs, soyons clairs, de s'improviser, d'improviser sur de la construction. C'est un peu la structure du bâtiment, mais donc leur vie derrière qui peut être en jeu. Il y a des professionnels qui sont formés, qui ont de l'expérience, qui sont là pour ça. Et tout dépend de ce qu'il y a à faire, mais ça peut aller du maçon, le charpentier, le couvreur, qui aussi utilise donc du béton ou du mortier. Je pense que j'expliquerai ce que c'est que du mortier. Et donc voilà, il y a différentes catégories de professionnels qui utilisent, et majoritairement c'est le maçon qu'on va voir pour ça. Et clairement, voilà, on peut pas s'improviser du jour au lendemain à être maçon, à monter une maison. Comme j'expliquais au début, avec mon père, on a fait, entre guillemets, une maison. On a fait, oui, nous, mais il y a des choses qui ont été faites par des professionnels. Et ça, c'est un peu risqué de s'aventurer à le faire tout seul. Ou alors, mais c'est comme pour les cookies, il faut de l'expérience, il faut du savoir-faire, et voilà.
Se faire correctement conseiller, en tout cas, quoi.
Exactement, exactement.
Peut-être expliquer du coup rapidement, tant qu'on est proche, le mortier, peut-être la différence.
Le mortier. Ben, c'est très simple, on va revenir sur les cookies. Alors si vous écoutez ce podcast... Faudra mettre ça au début, hein. Si vous écoutez le podcast, prenez une boîte de cookies avec vous. Et chaque fois que vous entendez le mot cookie, vous en mangez un.
Ça va devenir un podcast culinaire, en fait.
C'est ça. Mais en même temps, Ubercaille, qu'est-ce qu'on fait Ubercaille?
On cuisine.
Et on cuisine aussi. C'est un peu nécessaire quand même de cuisiner Ubercaille. Le mortier, c'est un cookie sans éclat de chocolat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grave, en fait. Il n'y a pas de gros éléments, on va dire. Ça, c'est pour du mortier de ciment. Mais le mortier, en fait, c'est juste un mélange. C'est une pâte, en fait. On aura fait le podcast entier sur les cookies. C'est une colle. Et donc, le plâtre, par exemple, c'est un mortier. On mélange du plâtre avec de l'eau. Il y a des mortiers qui sont à la chaux. Ou ciment comme celui auquel on pense là actuellement, ça dépend du liant. Et donc là, même le carreleur par exemple utilise du mortier. Il va utiliser du mortier de ciment pour coller ses carrelages, ciment ou autre chose effectivement, mais pas au plâtre. Plâtre, c'est surtout intérieur, mais pas forcément pour le carrelage. Et donc voilà la différence entre qu'est-ce que le mortier. Donc le mortier, c'est juste une pâte. Le béton, c'est une pâte avec donc c'est une pâte qui sert de colle. Le mortier, le béton, c'est on va ajouter un petit peu de grave dedans, et le ciment, c'est un composant du béton.
Ok, c'est clair. Et on aura presque terminé la recette du coup, ou terminé la recette.
Et c'est important peut-être aussi de préciser brièvement le ciment. Donner un peu plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que le ciment, parce que voilà, c'est le composant principal, enfin le plus important dans le béton, parce que si on met juste de la farine, du sucre et du beurre, on n'aura pas grand-chose à l'arrivée, et voilà, en rajoutant les œufs, on a la pâte.
Le liant,
ouais. Voilà, tout à fait. Et donc le ciment, c'est différentes phases. Donc c'est d'abord de l'extraction pour du calcium, pour de la silice, des choses comme ça. Ensuite, il y a une phase de broyage, une phase de cuisson, et là, c'est à peu près 1400 degrés. Et c'est cette phase de cuisson qui génère énormément de CO2, en plus de l'extraction, voilà. Ensuite, il y a un refroidissement, et après, à nouveau, un broyage. Et c'est dans des grands fours, en fait, c'est un peu comme...
On chauffe énormément, de toute façon.
On chauffe énormément, voilà, tout à fait.
Je rebondis sur cette dernière phase. Est-ce que le béton, c'est économique, du coup ? Est-ce que pour un ménage, c'est plus intéressant d'utiliser du béton ? Je ne sais pas s'il y a d'autres alternatives, mais aujourd'hui, est-ce que ça reste quand même la solution de base qu'il faut mettre chez soi quand on veut faire des travaux, quoi ?
Alors, j'ai expliqué au début, c'est dans 90% des constructions en zone urbaine. Parce que quand on sort des zones urbaines, on retrouve plus facilement des constructions quelquefois qui sont faites entièrement en bois. Oui, clairement, c'est un produit économique, le béton. Mais j'aurais pas forcément de chiffres à donner, de comparaison par rapport à d'autres solutions. Il y a actuellement les solutions qui sont biosourcées pour faire une maison, par exemple, avec du bois et des murs avec d'autres solutions, avec du chanvre ou de la paille. Mmh. Quasiment toutes les maisons biosourcées, on arrive à avoir des coûts supérieurs, malheureusement. Après, ça dépend de quel type de construction on a besoin. Comme j'expliquais, en zone extra-urbaine, on va retrouver des hangars qui sont faits en bois et qui tiennent très bien le coup, et qui sont encore là. Après, il faut bien sûr le protéger et le suivre. Mais c'est économique par rapport à sa durée, surtout.
Le béton, ça reste... entre guillemets stable, est-ce qu'il y a une durée de vie ? On en parlait au tout début, rapidement. Est-ce qu'il y a une durée de vie, du coup, au béton, ou est-ce que...
Alors, au début, on a parlé de la durée de vie, c'est une mauvaise...
Un mauvais usage.
Dénomination de part, c'est la durée de mise en œuvre. À partir du moment où il est produit, au moment où il faut l'utiliser. Une fois qu'il est en place, le béton, on estime qu'il a une durée de vie entre 70 et 100 ans, à peu près.
Ok.
Donc... il y a rien à faire en fait dessus. Il y a pas de, ça devient un matériau inerte qui n'est pas attaqué. Donc c'est aussi un de ses avantages. Et le bois par exemple doit être traité régulièrement parce qu'il peut être attaqué par de nombreux nuisibles. Donc oui, économique et durable.
Effectivement. Et du coup, est-ce que, alors je sais pas si tu auras cette réponse-là, est-ce que du coup, à partir du moment où on va dire, bon voilà, le béton il a fait 100 ans, ou même plus, hein, même beaucoup plus, un bâtiment doit être détruit ou démoli, est-ce qu'on peut récupérer ce matériau, ce béton, est-ce qu'il peut être recyclé ? On a parlé du recyclage finalement d'un camion, on peut recycler le béton qui est dans le camion, qui n'a pas été utilisé, etc. Mais est-ce qu'on peut recycler aussi du béton qui a vieilli, qui a eu sa durée de vie, quoi ?
Le béton de déconstruction peut être tout à fait recyclé, à savoir qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention. C'est que le béton armé, c'est quoi du béton armé ? C'est du béton avec soit des fibres... qui vont le renforcer, soit avec dedans, mais carrément, ce qu'on sait, c'est des fers à béton. Mais quand on va déconstruire, si le béton est mélangé avec le fer à béton, on peut pas mettre ça dans un broyeur, un concasseur, parce que le fer à béton va pas se casser et va causer des problèmes sur la machine. Donc, il faut d'abord enlever ce fer à béton pour pouvoir le concasser et le réutiliser. Donc c'est un peu la problématique qu'on retrouve souvent sur des chantiers où les déchets sont mélangés. Et c'est difficile de trier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui existent, surtout maintenant. Voilà, il y a une grosse prise de conscience à pas mal de niveaux pour proposer différents bacs, différentes solutions selon les produits, les déchets de chantier ou les déchets de déconstruction pour pas les mélanger. Et c'est un peu comme à la maison. On vient toujours au bercail. C'est faire le tri au niveau de ses poubelles, de pas mélanger le carton avec les bouteilles en verre, avec les papiers ou avec les pelures de fruits ou de légumes. C'est tout ne va pas au même endroit et faire le tri en fait, faire le tri à la maison, c'est comme faire le tri sur un chantier. Ça a une utilité derrière.
Mais c'est tout à fait possible, effectivement, de le reconcasser, de le réutiliser, réemployer.
Tout à fait. Et c'est justement, il vaut mieux, pour faire de la grave ou pour faire de la sous-couche routière, recycler du béton de déconstruction, que recycler du béton qui est tout neuf, entre guillemets, qui va devenir du déchet le jour même, mais qui, avant de devenir du déchet, il est encore utilisable. Je reviens sur mes fruits et légumes moches. Il vaut mieux quand même les consommer
que de, voilà, les,
que de les utiliser,
et...
que de les utiliser pour faire, je sais pas, pour faire de la fermentation ou pour faire du compost.
Il y a tout un espace-temps en fait entre effectivement le béton tout frais qui peut être vite réutilisé entre guillemets ou réemployé comme avec l'intermédiaire de ce que tu fais avec U-Béton. Ou soit effectivement à partir du moment où le béton a vécu, choses comme ça, là il y a tout un intérêt à effectivement le recycler et d'avoir toutes les filières qui vont derrière.
Ça.
Ok, super clair. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur ce sujet? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais partager en supplément? Sinon, je te propose de passer à la phase d'action.
Non, c'est bon pour moi.
C'est bon pour toi? Alors c'est parti, phase d'action. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail? Nos éditeurs, ils ont un projet de maison, Olivier. Ils ont un projet de construire, de bâtir, de faire une dalle, une chape. Qu'est-ce que tu leur conseilles comme première question à se poser par rapport au fait d'utiliser du béton?
C'est une sacrée question, ça, dis donc.
Ah oui, un conseil très concret.
C'est énorme comme question. Bah, en fait, je vais faire mon petit coup de perle à morale et revenir sur ce que c'est que l'économie circulaire. Donc, ils veulent faire une dalle. Est-ce qu'on a besoin de la faire? Voilà, c'est repenser en fait tout. C'est ça dans l'économie circulaire. C'est est-ce que j'ai besoin de ça? Donc repenser, réduire. Est-ce que j'ai besoin d'une dalle de cette taille-là? Et c'est déjà d'avoir un cheminement en termes d'économie circulaire qui montre que oui, j'ai besoin de le faire et penser à l'impact environnemental de faire une dalle. Et donc, si la nécessité d'une dalle est là, bah déjà, est-ce que j'ai les compétences? Si j'ai pas les compétences, je m'adresse aux professionnels qui les ont. Donc bah là, c'est le maçon. Et les maçons, on peut les trouver soit par du bouche-oreille, les conseils de voisinage ou en ligne. Il y a de nombreuses solutions qui permettent de faire le lien entre les maçons et les particuliers. Et ils seront bien conseillés par les maçons quant à la dalle, quant aux matériaux à utiliser pour la faire. Mmh. Parce qu'on peut la faire en béton, on peut la faire en plein de matériaux. Et c'est vrai que j'ai tendance, pour moi, quand j'ai besoin de quelque chose, à me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et voilà, à repenser différemment les usages. Et je dis ça et en même temps, je me tire un peu une balle dans le pied, puisque presque dans un sens, j'inciterai les gens à moins consommer de béton. Mais je préfère être...
De consommer plus intelligemment, en fait, finalement.
De consommer plus intelligemment, tout à fait. Voilà, c'est ça. De le consommer en conscience. Et je préfère être droit dans mes bottes et pouvoir me regarder dans une glace en disant, voilà... Moi, j'agis de cette manière-là pour moi. J'habite à la campagne, j'ai un petit véhicule électrique, je fais très peu de déplacements, très peu de longs déplacements en voiture.
Qui a d'ailleurs suivi Jacques Savater du premier épisode, pour la petite aparté.
Effectivement, cette voiture-là a fait, entre guillemets, voiture d'assistance sur le trajet épique Bordeaux-Paris en vélo. Avec Jacques Savater, avec Kevin et Cédric Prasse, le 7e artisan. Je vous conseille d'ailleurs de les suivre sur les réseaux sociaux. Hein. C'est Cédric Prasse, il fait de magnifiques vidéos sur les artisans du BTP. Et donc cette voiture a été voiture d'assistance, voilà, sur ce trajet-là, c'était chouette. Majoritairement, mes trajets se font en transport en commun. Sur ma consommation, c'est pareil. Je fais attention à ce que je consomme. C'est-à-dire que ce que je fais avec du béton, je me l'applique aussi à moi-même à titre particulier. J'explique que je le fais et que ça fonctionne. J'arrive à vivre et plutôt ça va. Sans forcément toujours obliger les autres à le faire. C'est des contraintes que moi je m'applique. Et voilà, sur des conseils concrets, Ça me semble évident de repartir sur ces conseils-là.
C'est parfait. J'en retiens de le faire de manière intelligente, en fait, de se poser réellement la question du besoin. Et puis, si le besoin est là, voilà, peut-être de voir si on peut réduire ou si on peut peut-être l'optimiser et puis trouver peut-être des solutions, comme tout simplement U-Béton aussi, qui fait pour aller dans le bon sens aussi, quoi.
Voilà, mais c'est pour presque pour toutes les consommations, qu'il est important de se poser des questions. Voilà. et au-delà de pisser sous la douche.
Effectivement. Comme... Et bah du coup, c'est bien, j'enchaîne avec la deuxième question phare dans ta vision, dans le meilleur des mondes. C'est quoi pour toi ton bercail idéal, Olivier ?
Alors, mais déjà, j'ai pas mal de critères dans celui dans lequel je suis. Alors, je suis dans un petit appartement dans le Gers, dans un petit village de moins de 350 habitants. Donc, ça situe un petit peu le degré de paumitude. C'est-à-dire que je suis dans un environnement où il y a pas trop d'immobilier autour, il y a pas trop de maisons. Effectivement, dans l'idéal, ce serait d'avoir quelque chose à transmettre à mes enfants. Donc là, je suis en location, mais voilà. Une maison que je puisse transmettre à mes enfants, de préférence une maison énergie positive, c'est-à-dire qui consomme très peu ou enfin qui ses consommations sont
soient les moindres possibles,
tout à fait. Bah, assez grande juste pour pouvoir recevoir mes garçons, un extérieur pour pouvoir avoir de quoi cultiver et une vue sur la nature, quoi, en fait. Pour moi, c'est important d'avoir cette vue sur la nature. Moi, je suis quand je prends la voiture que je fais 20 km et que pour rejoindre une gare ou quelque chose comme ça, enfin 20 km, je rejoins pas de gare depuis chez moi, mais que sur mon croisé je croise un sanglier et que je croise un renard, ben voilà, c'est sympa, c'est toujours mieux que de se lever le matin, d'aller faire 20 km sur le périph' parisien et de croiser deux scooters ou 40 scooters.
C'est de revenir un peu à l'essentiel.
C'est ça, ouais.
Ok, c'est super.
C'est plutôt ça, mon bercail idéal.
Pour
recevoir mes enfants, les amis, et en étant sur quelque chose de la base.
Très bien. Et est-ce que tu as des sources pour s'informer sur le sujet, des podcasts, des newsletters, des sites, des personnes qui seraient spécialisées là-dedans, ou même un livre, pourquoi pas, autour de tout ça?
Alors, autour du béton, j'ai pas vraiment de livre. Moi, mes lectures sont plutôt, pas forcément basées sur le béton, mais sur l'entrepreneuriat au sens large. C'est pas forcément axé purement béton. Je regarde beaucoup des vidéos, des conférences de Jean Covici, par exemple. C'est pas forcément des conseils sur le béton que je pourrais donner. Moi, je pourrais conseiller Le Monde sans fin de Jean Covici. Je pourrais conseiller, sur les réseaux sociaux, de suivre éventuellement Gabriel Pio, Gabriel au féminin, et Pio P-I-O-T. Qui est très impliqué dans les constructions et dans l'économie circulaire dans les constructions. De la même manière, dans l'économie circulaire, on retrouve aussi Elisabeth Gélot, donc Elisabeth comme Elisabeth, et Gélot, G-E-L-O-T. Mais je te fournirai les liens si tu veux.
Je rajouterai tout ça de toute façon.
D'ailleurs, je note que je suis en train de nommer que des femmes.
C'est bien aussi, dans le bâtiment.
C'est très bien, tout à fait. J'ai vu il y a pas longtemps un chiffre qui indiquait que la moitié des entreprises dans BTP étaient fondées ou cofondées par des femmes. Ça me semble à la fois beaucoup et à la fois j'ai l'impression, je suis pas de ce que j'entends, presque pour moi, j'en suis dubitatif, j'ai l'impression que c'est moins en fait dans la réalité. Mais si c'est la moitié, c'est bien. Et ça serait normal, puisque de toute façon, vous êtes 52% en France. Et ouais, voilà ce que je pourrais conseiller, on va dire, sur plutôt des lectures, moi, sur l'économie circulaire dans le bâtiment que le béton purement en parler, en fait.
Et justement, est-ce que tu as une lecture qui t'a marqué en particulier sur l'économie circulaire? Ça peut toujours être intéressant pour ceux qui s'y intéressent.
Ben, j'ai parlé de Le Monde sans fin.
Le Monde sans fin.
Parle indirectement d'économie circulaire, mais du monde de demain, et donc forcément des actions qu'on peut engager.
Je croyais que c'était un film, c'est pour ça. Je l'ai pas.
Non, c'est le livre de Jean Covici et Blin, écrit par Blin. Et sur l'économie circulaire, il y a énormément de. Ça se développe beaucoup ce qui se fait en ce moment pour l'économie circulaire. Donc il y a plein d'actes qui se font de chaque côté. Pour ceux qui veulent tenter des petits challenges pour goûter un peu ce que c'est et s'améliorer, il y a peut-être Ma Petite Planète qui propose des challenges en équipe, entre amis, entre collègues de travail, en famille, à réaliser et qui permettent de mettre un pied là, un pied dedans pour se rendre compte que c'est pas forcément si compliqué qu'on peut y arriver.
C'est une application. Ok. Super intéressant.
Et puis comme pour toute action qu'on veut mener, il faut mesurer. Comment est-ce que je fais un régime si je me pèse pas ou si je mesure pas mes bras, mes cuisses, si j'ai envie de faire un régime? Et là c'est pareil, il faut mesurer son impact pour savoir si sur quoi on peut agir et pour voir ses améliorations surtout. Donc il y a des sites qui existent pour ça. Si vous tapez juste sur Google « mesurer mon impact », vous aurez des liens qui vous seront proposés pour mesurer votre impact. Je crois que le Shift Project en propose. Je crois que l'ADEME aussi propose une solution pour mesurer son impact personnel en termes de CO2.
Le premier site, c'était quoi? Excuse-moi, j'ai mal entendu.
Le Shift Project. Je crois qu'il propose un calculateur. Shift Project, c'est Jean Covici.
Ah, ok.
Je crois qu'il propose un calculateur, mais je suis pas sûr. Enfin, Carbone 4. Je sais pas si c'est Shift Project ou Carbone 4.
Ok, j'irai vérifier. Ok, très bien.
J'essaie juste après de te chercher, enfin, ce que je t'ai dit, quelques noms, quelques liens et de te filer ça.
Parfait. Eh ben, écoute, c'est très bien pour moi. Est-ce que il y a un endroit où on peut te contacter ou te retrouver si on a un peu plus de questions?
Oui, alors mais le plus simple c'est LinkedIn. Il suffit de taper dans tout à fait en haut dans la barre de recherche soit mon nom prénom, soit le gars en vert. On arrive à me trouver aussi. Alors je suis pas toujours en vert, hein, je travaille pas pour cette Hélène. Pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, c'est essentiellement là. Après, par mail aussi, on peut me trouver. Je pourrais te fournir mon mail.
Je pourrais le partager.
Je pourrais le partager, voilà. Okay. Et puis, sur ubeton.fr, il y a aussi un petit peu de moi.
Ok, je noterai tout ça pour que les auditeurs puissent te retrouver assez facilement. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, pour ce moment. C'était super agréable. Et puis à très
ça
vite
donne faim.
Dans vos bercailles. Ça donne très très faim. Je crois que je vais aller faire des cookies.
Voilà, c'est ça.
Merci Olivier.
Bonne journée.
Si je devais retenir trois choses sur le béton, c'est déjà, le béton reste l'ingrédient principal dans la construction aujourd'hui. C'est indéniable, c'est avéré et on le voit partout. Ses composants principaux sont le sable, la grave, de l'eau et du ciment. Aujourd'hui, il existe des solutions pour le recycler et le remployer, même si on dépense moins d'énergie à le remployer tout de suite. Ensuite, le béton, c'est comme la recette de cookies. Il en existe de toutes sortes, du armé, lourd, léger, prêt à l'emploi. Il peut varier en fonction du chantier et de la réalisation. Et surtout, pensez à demander conseil à un maçon si vous vous lancez dans le mélange maison. Enfin, le béton, c'est aussi un matériau inerte, qui n'est pas attaqué contrairement au bois, qui doit être souvent traité à cause de différents nuisibles. On estime sa durée de vie entre 70 et 100 ans. Je me permets une dernière petite rectification sur notre jeu en début d'épisode. Olivier a évoqué le fait d'intervenir en école d'ingénieurs pour présenter ses actions et le sujet de l'entrepreneuriat à impact. Il s'avère que cette affirmation est aussi vraie. Voilà, vous savez tout. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir notre travail en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux faire partie de la belle communauté d'Aubercaille, je t'invite directement à t'inscrire sur notre site www.aubercaille.co pour avoir toutes les dernières informations sur l'habitat éthique. À très vite dans Aubercaille.